VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 28 décembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Jean-Roger Bion. Pour commencer, les titres.
Au Niger, édition d'une trentaine de combattants de Boko Haram de la région de Diffa.
Pas de rencontre Trump-Sassou Nguesso hier. Elle n'avait même pas été programmée, selon l'équipe du président élu des États-Unis.
Au Nigeria, le gouvernement sévit contre un phénomène bien connu en Afrique en débarrassant la fonction publique de 50 000 travailleurs fantômes.
Trois quarts de siècle après l'attaque de Pearl Harbor, le japonais Shinzo Abe et l'américain Obama rendent hommage aux victimes de cette offensive qui précipita l'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale.
Et ne manque pas notre page sport, la Minute Echo et notre rétrospective 2016. Aujourd'hui, le Togo.
Pour l'instant, le journal.
Une trentaine de combattants de Boko Haram de la région de Diffa, dans le sud-est du Niger, ont déposé les armes et se sont rendus aux autorités nigériennes, a annoncé Bazoum Mohamed, le ministre nigérien de l'Intérieur. Lionel Gaïma pour les précisions.
31 jeunes, plus exactement, dont 4 femmes, enrôlées il y a quelques années dans les effectifs de Boko Haram. Une déclaration faite sur les réseaux sociaux par Bazoum Mohamed en visite à Diffa, ville proche du nord-est du Nigeria, bastion de Boko Haram. C'est la première fois que les autorités nigériennes font état de désertion de ressortissants nigériens de rang de Boko Haram qui mènent des attaques meurtrières depuis février 2015 contre le Niger. Ces jeunes pourront bénéficier d'une amnistie et, avant de regagner leur famille, ils bénéficieront d'un programme de déradicalisation et des projets de réinsertion socio-économique. En janvier 2015, un responsable municipal de Diffa avait signalé des départs nombreux de jeunes qui étaient de plus en plus attirés par les offres de Boko Haram, qui leur proposent jusqu'à 300 000 francs CFA par mois, environ 500 euros par mois.
Qu'en est-il de la supposée rencontre hier entre le président congolais Denis Sassou Nguesso et Donald Trump, le président élu des États-Unis? Eh bien, elle n'a pas eu lieu. Et Bagassi Koura, dans le camp de M. Trump, on souligne qu'une telle rencontre n'a même jamais été à l'ordre du jour.
La porte-parole de Donald Trump a fait savoir qu'aucune rencontre n'avait été proclamée et qu'il n'y en aura pas avant la prestation de serment du nouveau président américain le 20 janvier. Thierry Mungala, porte-parole du président congolais, avait pourtant annoncé dans un communiqué que la rencontre devait avoir lieu hier mardi. Il avait précisé que le président Sassou Nguesso allait être reçu en sa qualité de, je cite, « président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye ». OPX, la porte-parole de Donald Trump, a fait savoir qu'aucun tête-à-tête n'est prévu entre le président élu américain et le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso.
Le gouvernement nigérien a débarrassé la fonction publique de 50 000 travailleurs fantômes, ce qui lui a permis d'économiser près de 200 milliards de naira dans le cadre de la lutte contre la corruption, a annoncé hier la présidence. Les précisions, John Lindon.
Selon un communiqué du porte-parole de la présidence, Garba Shehu, 13 milliards de naira ont été économisés sur les salaires payés de février à décembre 2006, tandis que l'audit des retraités a permis de récupérer 1,13 milliard de naira par mois sur la même période, a-t-il précisé. M. Shehu a affirmé que 11 des principaux suspects avaient été traduits devant la Commission pour les crimes économiques et financiers. Le président nigérien Muhammadu Buhari, élu en 2015, a fait de la lutte contre la corruption endémique au Nigeria son principal cheval de bataille, accusant l'administration de l'ex-président Goodluck Jonathan d'avoir pillé les caisses de l'État. Des dizaines d'anciens barons proches du pouvoir, dont des ministres et des juges très haut placés, ont été accusés de corruption ou de blanchiment d'argent et doivent aujourd'hui en répondre devant les tribunaux. L'économie nigériane traverse une période difficile. Le pays est entré en récession cet été dans un contexte de prix du pétrole bas, un secteur qui représente 70% des recettes publiques du pays.
Les parlementaires nouvellement élus ont prêté serment hier en Somalie au terme d'un processus de vote complexe par clan de plus de 2 mois, mais considéré néanmoins comme un progrès démocratique. Le Parlement a été intronisé sous très haute protection à Mogadiscio dans un contexte de risque d'attentat mené par la rébellion islamiste somalienne des Chebab, toujours très élevé. Les parlementaires doivent élire un président de la République.
Près de 55 000 personnes ont été poursuivies en justice en Algérie pour des affaires de terrorisme depuis le début des années 90, a appris l'AFP hier auprès du ministère de la Justice. Il s'agit du premier chiffre global communiqué par les autorités concernant les poursuites pour terrorisme depuis la fin de la décennie noire au début des années 2000.
Presque 50% des jeunes Tunisiens issus de quartiers populaires pensent à quitter leur pays et 1 sur 3 se dit prêt à émigrer clandestinement si la situation l'impose. Selon l'étude d'une ONG publiée hier, 6 ans après sa révolution, largement motivée par des considérations économiques et sociales, la Tunisie demeure engluée dans la morosité. Selon une étude réalisée par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, dans 6 quartiers populaires du pays, 45,2% des sondés sont actuellement dans un processus de réflexion sur la migration.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
3/4 siècle après l'attaque de Pearl Harbor, le premier ministre japonais Shinzo Abe et le président Barack Obama ont rendu hommage aux victimes de cette offensive qui précipita l'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale et ils ont fait l'éloge de la réconciliation. Compte rendu, Michel Joseph.
7 mois après leur visite commune à Hiroshima, première ville japonaise frappée par le feu nucléaire, le premier ministre japonais et le président américain ont rejoint mardi par bateau le mémorial USS Arizona, construit au-dessus de l'épave rouillée du cuirassé éponyme qui fut coulé par l'aviation nippone le 7 décembre 1941. Les deux hommes ont déposé des couronnes de fleurs devant le mur sur lequel sont inscrits les noms des 1177 Américains qui y périrent. Préparée pendant des mois dans le plus grand secret, l'attaque éclair, elle dura à peine 2 heures, contre la principale base navale américaine dans le Pacifique, sur l'archipel d'Hawaï, fit plus de 2400 morts américains. Le message que je veux envoyer au monde ici à Pearl Harbor avec le président Barack Obama est celui du pouvoir de la réconciliation, a déclaré M. Abe dans un discours chargé d'émotion. En tant que nation et peuple, nous ne pouvons choisir l'histoire dont nous héritons, mais nous pouvons choisir les leçons que nous en tirons, a estimé le président américain en écho, soulignant que l'alliance entre Tokyo et Washington n'avait jamais été aussi forte. C'est la première fois qu'un premier ministre japonais se rend sur le mémorial USS Arizona, construit au début des années 1960.
En Israël, un comité de planification doit discuter aujourd'hui de la délivrance d'un permis de construire pour 618 logements à Jérusalem-Est, et ce malgré la récente résolution de l'ONU demandant l'arrêt de la colonisation dans les territoires palestiniens occupés. C'est ce que rapporte une ONG anticolonisation israélienne.
Le gouvernement syrien est en discussion avec l'opposition pour préparer d'éventuels pourparlers de paix. C'est ce qu'a déclaré mardi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Le chef de la diplomatie russe, dont les propos étaient rapportés par l'agence de presse Interfax, n'a pas dit où se tenaient ces entretiens et quel groupe ou tendance de l'opposition y participait. Le président Vladimir Poutine a déclaré vendredi dernier que la Russie, l'Iran, la Turquie et le président syrien Bachar al-Assad étaient tous d'accord pour la tenue de négociations de paix à Astana, capitale du Kazakhstan, pays allié de Moscou.
L'ex-présidente argentine Cristina Kirchner a été inculpée mardi dans une affaire de marché public truqué. Nouvel épisode des ennuis judiciaires de plusieurs figures de la gauche latino-américaine, comme l'ancien dirigeant brésilien Lula. Au pouvoir de 2007 à 2015 et déjà inculpé cette année dans une affaire de spéculation sur les taux de change, Cristina Chris Kushner, 63 ans, est cette fois soupçonnée d'avoir favorisé un homme d'affaires dont elle est proche, Lázaro Báez, dans l'octroi de contrats de travaux publics dans la province de Santa Cruz, son fief politique en Patagonie, dans le sud de l'Argentine.
Trois personnes de nationalité chinoise ont été inculpées aux États-Unis pour avoir piraté les systèmes informatiques de cabinets d'avocats. Les informations confidentielles que ces personnes ont obtenues leur ont permis de réaliser de juteuses opérations en bourse, a-t-on indiqué mardi de sources judiciaires. Les inculpés ont réussi à introduire un ver informatique dans les systèmes informatiques de plusieurs cabinets d'avocats spécialisés en fusion et acquisition.
Enfin, l'actrice américaine Carrie Fisher, rendue célèbre par son rôle de la princesse Leia dans la saga La Guerre des Étoiles, est décédée mardi dans un hôpital de Los Angeles à l'âge de 60 ans. La Minute Éco, Arzuma Compaoré.
En RDC, la morosité des cours des matières premières continue de peser lourdement sur le pays, grand producteur de cuivre, de cobalt et de zinc. La Banque centrale a discrètement ramené sa prévision de croissance à 2,5%, moitié moins que les 5,3% évoqués en juin. 2010 milliards de francs CFA, c'est le budget général prévisionnel du Bénin pour 2017. 808 milliards de ces fonds seront consacrés à l'investissement public. C'est une augmentation considérable par rapport à l'exercice 2016, a souligné Abdoulaye Biotchane, ministre du Plan et du Développement. Le budget des secteurs sociaux, lui, passera de 78 milliards de francs CFA en 2016 à 265 milliards en 2017. Au Cameroun, la dette de la Compagnie nationale de transport aérien Camerco, estimée à 35 milliards de francs CFA, sera auditée. D'après le site CameroonInfo.net, qui cite des sources internes à l'entreprise, Ernest Dikoum, le nouveau directeur général de Camerco, veut prendre toutes les précautions nécessaires pour faire toute la lumière sur ce sujet. Lourdement endetté depuis la création, en 2011, Camerco a adopté le plan de restructuration proposé par le cabinet américain Boeing Consulting, estimé à 100 milliards de francs CFA.
À présent, les sports avec Eric Manirakiza. Football, championnat d'Angleterre, ce mardi se jouait la 18e journée. Liverpool écrase Stoke et garde le rythme.
Les Reds ont largement battu Stoke 4-1 pour rester accrochés au train du leader Chelsea. Tous les gros avaient gagné la veille lors du Boxing Day. Les hommes de Jürgen Klopp se devaient d'enchaîner pour tenir le rythme. Liverpool constitue la meilleure attaque d'Angleterre avec 45 buts qui a ainsi aligné son troisième succès de suite.
Espagne, l'Atlético Madrid garde son manager Diego Simeone jusqu'en 2018.
Annonce du président du club Miguel Angel Gil Marín, l'Argentin en poste depuis 2011 restera entraîneur de l'Atlético Madrid jusqu'à la fin de son contrat actuel en 2018. Diego Simeone a conduit l'Atlético à deux finales de Ligue des Champions. Après la défaite en finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid en mai 2016, il avait évoqué un possible départ du club madrilène. Plusieurs médias l'avaient ensuite annoncé proche du Paris Saint-Germain, d'Arsenal ou encore de l'Inter Milan, Idrissa.
Restons en Espagne, Eric. Malaga se débarrasse de son entraîneur Ramos.
Le club a affirmé que ce départ relève d'un commun accord conclu de manière amicale. Malaga avait notamment été sifflé par ses propres supporters après sa défaite 4-2 à domicile, synonyme d'élimination en Coupe du Roi le 20 décembre devant Córdoba, un club de deuxième division déjà vainqueur à l'aller 2-0. Ramos avait aussi entraîné le Real Madrid et Tottenham.
Le footballeur argentin Tevez cambriolé pendant son mariage.
Le cambriolage a eu lieu dans sa maison à Buenos Aires. Des voleurs ont profité de l'absence du footballeur argentin Carlos Tevez en Uruguay pour célébrer son mariage. Le montant du butin dérobé par les voleurs n'est pas connu. L'ancien attaquant de Manchester City et United de la Juventus n'avait pas encore déposé plainte ce mardi. Carlos Tevez devrait officialiser cette semaine son transfert vers la Chine. Le club du Shanghai chinois lui a proposé un salaire de 40 millions de dollars annuels pour le convaincre de quitter Boca Juniors, le club de ses débuts, où il est retourné en 2015, Idrissa. Et avec toi, Idrissa, les résultats de la NBA des matchs de ce mardi soir.
Memphis-Boston 103-113, Oklahoma City-Miami 106-94 et Houston-Dallas 123-107.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, les populations attendent toujours la signature d'un projet d'accord devant sanctionner les travaux au dialogue de la dernière chance ouvert le 8 décembre dernier sous l'égide de la CENCO pour une solution de sortie de crise. En principe, la Conférence épiscopale nationale du Congo prévoit pour ce vendredi 30 décembre la signature en question, nous dit notre correspondant à Goma, Charlie Kasereka, qui a recueilli quelques réactions dans la capitale du Nord Kivu.
Dans les rues de Goma, l'opinion et souhait de la population restent partagés. Pour cette militante du mouvement citoyen Lutte pour les changements, Lucha raconterait alors qu'elle vient juste de sortir de la prison où elle vient de passer 6 jours avec ses 18 autres camarades. Ils avaient été interpellés tous alors qu'ils manifestaient devant les bureaux du gouverneur, réclamant la démission de M. Kabila. Kabou Rebecca souhaiterait voir Kabila en personne apposer sa signature sur cet accord.
Moi, je suis de l'avis que chacun signe de soi-même. Je préférais que Kabila pose lui-même sa signature, ses accords, parce qu'il y a tant d'accords qui sont signés et on ne respecte pas ces accords.
Cet autre gomatracien qui a requis l'anonymat, lui, félicite et encourage les derniers messages du cardinal Laurent Monsengo, qui, au cours des homélies de Noël le dimanche 25 dernier, a adressé un message de paix et de mise en garde par rapport à la situation politique au pays. Un message qui a été relayé dans la presse locale.
Et ce que Monsengo a dit, c'est ça, ce qui résume tout. Vous prenez le pouvoir par les armes, voilà. Et vous cherchez à les conserver par les armes, en tuant le peuple. La constitution protège les forts et les faibles. Celui qui respecte la constitution ne craint rien. Je ne dis pas mon nom pour des raisons de sécurité.
Pour Jean-Paul, la trentaine révolue, lui pense que la patience devrait animer tous les esprits en attendant la signature de l'accord.
Normalement, dans une négociation, une signature, elle ne s'obtient pas d'une manière directe. Ils doivent avoir des concessions, ils doivent se parler. Le dialogue qui se fait à Kinshasa actuellement, c'est un dialogue qui a vraiment un sens d'être. Parce que nous étions en train d'aller tout droit vers le chaos. La palabre africaine, on ne doit pas l'oublier. Quand il y a des problèmes, les gens doivent se mettre ensemble, ils doivent parler. La société civile a été là, les rassemblements ont été là, l'AMP a été là.
Palabre africain, c'est ce que souhaite aussi Pauline Wamaria, cadre dans un parti politique de la majorité présidentielle ici au Nord Kivu, ajoutant que l'important était d'abord de sauver la nation.
Les gens disaient le 19. Vous avez vu ce qui a été à Lubumbashi, à Kinshasa. Ce sont les vies humaines que nous avons perdues. Mais dans l'entretemps, ces gens-là qui les ont intoxiqués, ils sont où? Donc nous, de la majorité, nous voulons qu'il y ait la paix. Nous voulons que ce dialogue aboutisse, pourvu qu'il aboutisse avec de bons résultats pour les intérêts du peuple.
En ce qui concerne les grandes lignes de cet accord, il sera instauré une période de transition dirigée par le président Kabila sous la vigilance d'une commission chargée de suivi de l'application d'idi accord pour que les élections présidentielles soient organisées fin 2017. En attendant la signature de cet accord, les yeux restent donc braqués au centre interdiocésé de Kinshasa. Charles Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Toujours en République démocratique du Congo, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a voté hier la levée de l'immunité parlementaire de Gabriel Kiyongo wa Kumwanza, dirigeant d'un parti d'opposition accusé d'outrage envers le président Joseph Kabila. De Lubumbashi, notre correspondant Narval Mabila fait le point.
12 ont voté pour, 10 ont voté contre. La requête de la levée de l'immunité parlementaire de Kiyongo wa Kumwanza a été formulée par le procureur général afin de le poursuivre en justice pour avoir offensé le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Maître Somville Mukendi, avocat conseil de Kiyongo wa Kumwanza et chargé de la communication rassemblement, revient sur les contours.
Dans une réunion que nous avons tenue avec cette commission, la commission qui a été instituée au niveau de l'Assemblée, dans le réquisitoire, monsieur le procureur général, il a été dit que le procureur possédait un élément sonore. attestant effectivement que l'honorable Kimo Kumaza aurait offensé le chef de l'État. Il a été convenu de toutes les deux parties qu'il faudrait que le procureur général puisse mettre à disposition de cette commission cet élément sonore pour qu'on puisse statuer. Et jamais cet élément sonore n'a été mis à disposition de cette commission. Nous posons mille et une questions sur base de quels faits, sur base de quels éléments qui se sont réunis pour lever l'immunité de notre honorable Kimwa Kumaza. La levée de l'immunité a été demandée par le procureur général du Katanga, de Lubumbashi.
La société civile du Haut-Katanga, c'est l'indignation totale. Maître Kalwa, président de la société civile, s'exprime.
Nous sommes indignés, sincèrement indignés, par rapport à cette décision qui n'est pas de nature à décrisper la situation politique de notre pays en général et de la province du Katanga en particulier. Pensons que la responsabilité, éventuellement pour toute conséquence, va retomber sur l'Assemblée provinciale de la province du Haut-Katanga.
Les avocats conseillers de Kimwa Kumaza s'est dit prêt à affronter la justice comme les 49 personnes arrêtées lors des événements du 19 au 22 décembre qui comparaissent en flagrance avec comme chef d'accusation mouvement insurrectionnel veulent qualifier destruction méchante, incendie volontaire. Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
En Centrafrique, l'ancien président déchu, François Bozizé, depuis son exil au Kenya, a récemment lancé l'idée d'un forum de réconciliation nationale en vue de trouver des solutions à la crise qui secoue le pays depuis 2003. Une proposition que le gouvernement ne prend point au sérieux, estimant que François Bozizé, sous le coup d'une sanction onusienne, fait l'objet d'une poursuite judiciaire de son pays. Mais pour Joseph Bendunga, le leader du mouvement démocratique pour la renaissance et l'évolution de Centrafrique, la présence de François Bozizé est souhaitable à ses assises dans la mesure où c'est un fils du pays. Au micro de Félix Yepassi Zembrou, écoutons M. Bendunga.
D'abord, ce n'est pas le général Bozizé qui a été le tout premier à proposer un forum de réconciliation après la prise de fonction du président élu Faustin Archange Touadéra le 30 mars 2016. C'était le MDRC le 7 octobre. Nous avions constaté les manquements tant sur le plan politique que sur le plan sécuritaire ainsi que fiscal et douanier. Et nous avions fait 5 propositions au chef de l'État. La 5e proposition concerne une consultation nationale à la base sur la sécurité, la paix, la justice, la cohésion sociale, la réconciliation et le développement. Cette consultation à la base se terminera par une assise nationale souveraine sur la sécurité exclusivement. Parce que nous avons senti que le président de la République, une fois élu, a violé son serment et a violé ses engagements électoraux vis-à-vis du peuple centrafricain par rapport à la sécurité. Comment un État de droit peut-il exister sans qu'il y ait des forces de sécurité et de défense? Quand nous nous sommes rendus compte que, à l'allure où vont les choses, la République centrafricaine ne s'en sortira pas, et la partition de la République centrafricaine qui est de fait, plus des 3/5 de la République centrafricaine sont occupés par les forces rebelles. Depuis que le président élu a pris ses fonctions, nous sommes à peu près à 800 morts, plus de 20 000 déplacés, plus de 6 000 centrafricains qui sont allés en exil. L'appel de Bozizé vient conforter, renforcer l'appel du MDRC, l'appel de l'archevêque. Il a même rappelé pendant la messe de Noël.
Monsieur le Président, en ce qui concerne l'ancien président François Bozizé, ces assises dont vous parlez seraient souhaitables pour François Bozizé?
Tous les Centrafricains sont appelés à débattre de leur pays, sauf si Bozizé doit répondre devant la justice. Mais à ce que je sache, Touadéra a co-géré la République centrafricaine jusque un mois et quelques jours, c'était l'accord de Libreville qui l'a relevé de ses fonctions. Si Bozizé doit aller devant la justice, mais Touadéra, premier ministre, chef du gouvernement, pendant cette période-là, doit aussi répondre de cela. Donc je ne pense pas que c'est seulement Bozizé qui doit répondre devant la justice centrafricaine. Mais Touadéra, 5 ans durant, était premier ministre de Bozizé. En ces temps-là, il y a eu l'avènement de la LRA, celle de la SELECA. Il est co-acteur de la crise centrafricaine, tant comme les chefs rebelles que Bozizé.
Joseph Bendunga, mouvement démocratique pour la renaissance et l'évolution de Centrafrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Dans le cadre de notre série rétrospective 2016, les points saillants de l'actualité pendant l'année qui s'achève, avec notre correspondante à Lomé, Kai Lawson.
2016, une année post-électorale au Togo, donc moins mouvementée sur le front social et politique, même si en cette fin d'année, la grève des enseignants qui secoue le monde éducatif togolais n'a pas encore trouvé un terrain d'entente entre l'État et les grévistes. 2016 a été une année très diplomatique pour le Togo. Le pays a débuté cette année qui s'achève en honorant ses fils et filles de l'extérieur à travers l'événement « Réussite diaspora ». Les réussites diaspora sont des distinctions honorifiques qui priment le travail de la diaspora togolaise. Claude Grineski, cofondateur du groupe médiatique Trace, fait partie des 7 lauréats de la première édition.
Le plus important, c'est d'insister sur la transmission de savoir, d'expérience et de connaissances.
3 mois plus tard, le printemps de la coopération germano-togolaise s'est tenu à Lomé pour renforcer sur le plan économique les liens historiques entre l'Allemagne et le Togo. Le Togo a brillé sur le plan continental en organisant en octobre dernier le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Une session qui a été couronnée par l'adoption et la signature de la charte de Lomé sur la sécurité maritime. Idriss Déby Itno, président en exercice de l'Union africaine.
Je voudrais vous remercier et féliciter pour votre sage et consensuelle décision d'adopter et de signer la charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement.
Pour cause de ce sommet sur la sécurité et la sûreté maritime, la rentrée scolaire prévue pour le 26 septembre a été reportée au 17 octobre, soit au lendemain du dit sommet. Un report qui n'a pas été du goût des parents d'élèves. Laïssou Koko Géraldo, président du comité des parents d'élèves des écoles privées laïques du Togo.
On ne s'y attendait pas, 3 semaines c'est trop. Et surtout que les raisons n'ont pas été clairement évoquées. Les enfants, pratiquement depuis mi-juin, sont à la maison. Et vous savez, quand les vacances durent trop, il y a les conséquences qui s'en suivent.
L'une des situations qui a ému le Togo en 2016 est le décès de la Togolaise Amélie Sizing au Liban, dont le corps a été rapatrié le 15 novembre dernier. Des Togolaises immigrées professionnelles vivent l'enfer dans des pays du Golfe, à en croire le témoignage de cette victime.
J'étais au Liban. J'ai fait Liban-Koweït, mais le Koweït, c'est plus dur que tout. C'est le travail, esclavage.
Sur le plan sportif, après près de 3 ans de suspension du championnat de football de première division, le ballon a repris par rouler sur les différentes pelouses depuis le 11 septembre. Une promesse de campagne de l'actuel président de la Fédération togolaise de football, Guy Kossi-Akpovi. L'autre promesse faite par l'instance dirigeante du football togolais était la qualification des éperviers à la Coupe d'Afrique des Nations CAN-Gabon 2017. Henri Diagba, directeur de campagne.
Nous avons raté le mondial. Inch'Allah, pour les 4 ans que nous avons devant nous, nous allons aussi qualifier l'équipe portugaise pour cette phase du monde.
L'année 2016 s'en va. Les Togolais attendent le traditionnel discours du président de la République à l'orée de la nouvelle année pour d'éventuelles annonces. Les syndicalistes demandent déjà l'ouverture du dialogue social. Kai Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Eh bien, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Michel Joseph pour la mise en onde et Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.